Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Et si pour comprendre le monde actuel, nous plongions peut-être la première dans l'histoire. L'histoire de la fatigue, par exemple. C'est une façon inédite et passionnante de saisir cet abattement, ce malaise que certains peuvent ressentir aujourd'hui. L'histoire des idées, en s'arrêtant chez Montaigne, tiens, formidable écrivain, non moins grand philosophe, qui nous enseigne que savoir vivre cette vie, c'est savoir en jouir. L'histoire des femmes également, ces grandes oubliées, mais qui jouèrent un rôle déterminant dans notre histoire et dont on écrit enfin la saga, ce qui ouvre des perspectives nouvelles et permet de comprendre de façon totalement différente l'évolution des 200 dernières années. Et puis enfin, l'histoire en train de s'écrire. Que se passe-t-il lorsqu'un historien est confronté à l'histoire avec un grand H, quand il est à la fois victime d'un attentat et chargé de témoigner ? À quoi sert l'histoire? Comment l'enseigner? Qu'y a-t-il encore à découvrir? Ce sont quelques-unes des questions que je poserai ce soir à mes invités. J'accueille sur ce plateau André Comte-Sponville, Yannick Ripa, Georges Vigarello et Christophe Naudin. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Ravi de vous accueillir, ravi surtout de vous proposer de dialoguer tous ensemble autour de ces questions et puis peut-être de questions d'actualité aussi, si tant est que l'histoire ait quelques leçons à nous offrir, nous, pauvres contemporains de ce siècle 21. Yannick Ripa, vous publiez, alors, un livre étonnant et qu'on attendait depuis longtemps, « Histoire féminine de la France », c'est aux éditions Belin, passionnante somme qui fera date. C'est un regard inédit sur notre histoire, de la Révolution française à cette autre révolution qu'est la loi Veil. À vos côtés, Georges Vigarello, qui raconte l'histoire de la fatigue, mais alors, comme si la fatigue était un personnage de roman, en réalité. Hein, son évolution, la façon dont elle a changé au cours des siècles pour arriver aujourd'hui à ce qu'on appelle le stress, le burn-out.
Qui elle a concerné aussi.
Et qui elle a concerné. Alors, on découvrira d'ailleurs qu'elle n'a pas concerné ceux que l'on croit. Ça a beaucoup changé au cours des siècles. André Comte-Sponville, alors, vous, c'est Montaigne que vous célébrez. Dans ce dictionnaire amoureux de Montaigne, qui se lit aussi, me semble-t-il, enfin on en parlera, comme une autobiographie en creux du philosophe hein, et de celui qui tient la plume. Et puis à vos côtés, Christophe Naudin, avec qui j'aimerais ouvrir cette émission, car vous représentez, me semble-t-il, Christophe Naudin, un cas assez rare d'historien. Vous êtes historien, professeur en classe de collège. Vos travaux portent notamment sur l'islam médiéval et l'islam politique. Et vous avez publié, il y a quelques années, avec William Blanc, Charles Martel et la bataille de Poitiers. C'est un ouvrage consacré aux récupérations politiques de la célèbre bataille de Poitiers. Vous étiez au Bataclan le 13 novembre 2015 avec deux amis, dont l'un a été tué. Vous êtes resté caché dans un cagibi, puis vous avez enjambé les cadavres. Je ne donne ces précisions que parce qu'elles sont au cœur du journal que vous publiez sous ce titre, Journal d'un rescapé du Bataclan, et qui me semble très important pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un récit souvenir de ce que vous avez vu et entendu ce soir-là, tel quel, brut, on va y revenir. Mais aussi parce que c'est une réflexion sur l'histoire en train de se faire, réflexion faite par un historien qui est aussi victime d'attentats. Ce journal d'un rescapé du Bataclan paraît aux éditions Libertalia. Vous avez choisi de le publier, ce journal, Christophe Naudin, sans le retoucher, sans le réécrire, sans en faire un essai ou quelque chose d'autre d'ailleurs. Pour quelle raison ce choix ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Au départ, quand j'écris ce journal, parce que c'est un journal seulement à la base, c'est vraiment, j'ai besoin d'évacuer les choses. Je commence en décembre, début décembre 2015, donc peu de temps après l'attentat. Et je l'écris à un moment, j'ai aucune intention de publier un jour. C'est vraiment, je suis pas du tout dans cette optique-là. Et je l'écris, donc je me vide en fait. J'ai besoin, quand je suis chez moi, je sors beaucoup le reste du temps. J'essaie de me changer les idées, mais quand je suis seul chez moi, il faut que je me vide. Et notamment, j'ai un surplus d'actualité. J'ai toujours été passionné par l'actualité. Mais là, je deviens quasiment toxicomane à l'actualité. Et j'ai besoin d'évacuer en fait, ce que je reçois de l'analyse des attentats du 13 novembre et surtout de ceux qui suivent tous les mois et les années suivantes, parce qu'il y en a beaucoup. Et après, au bout d'un moment, je ne sais pas exactement combien de temps, mais plusieurs semaines, je commence à me relire, en fait, sans réécrire, évidemment. Et ça me fait du bien de me relire. J'ai l'impression de prendre du recul par rapport à ce que j'ai écrit, donc ce que j'ai vécu. Déjà, là, j'ai l'impression d'être un peu dans une démarche d'historien, mais sans vraiment le savoir au début. Et je continue à écrire tout ça. Et ça dure 3 ans, parce que petit à petit, ma vie change, je me reconstruis. Je fais des rencontres et petit à petit, on le voit au fur et à mesure du livre, j'interviens moins, je réagis moins, je réagis de façon moins...
La colère s'estompe aussi un peu.
La colère s'estompe, ouais. Et surtout, je prends de plus en plus de recul. Et donc, je me suis fait mon propre chemin en me documentant, en relisant des choses, en prenant du recul, en fait. Et j'ai proposé quelque chose à mes éditeurs au début qui parlait de cette expérience-là, mais sans utiliser le journal en tant que tel. Puis ça ne fonctionnait pas vraiment. Et ils m'ont proposé, ils m'ont dit, mais ton journal en tant que tel, il peut être aussi intéressant comme matière, évidemment, contextualisée. Et j'ai trouvé, au bout du compte, et je dis plusieurs fois dans le livre, que témoigner, c'est très important. Je témoigne très vite dans les médias, je participe à l'étude de Denis Péchanski aussi, qui est très importante. Et le livre, c'est un peu le... Voilà,
Le livre de Denis Péchanski qui vient de paraître et qui est effectivement la collection des différents témoignages, comme il l'avait déjà fait, Denis Péchanski. Il faut rappeler que c'est un historien qui travaille depuis toujours sur la nécessité du témoignage. Mais parfois aussi ses ambivalences. Avez-vous eu le sentiment, vous, qu'à un moment, des informations que vous n'aviez peut-être pas vécues, pas eues à l'époque, mais qu'on vous a données plus tard, ont fait écran à certains de vos souvenirs?
C'est pas forcément un écran, mais il y a complémentarité, en fait. Notamment quand j'ai lu cet ouvrage, je suis dedans, on est tous sous pseudo, mais et de le lire, ça m'a vraiment servi à reconstruire. En fait, il y a plusieurs pièces d'un puzzle. Il y a mes souvenirs et les témoignages des autres victimes, les analyses des médias et le travail de l'enquête, c'est très important. Et tout ça, ça me permet de faire un puzzle qui reconstruit ma soirée. Et une amie historienne, quand on en a parlé, m'a dit « Mais tu parles jamais de la soirée en tant que telle ?» Ou alors c'est en remontant petit à petit, il n'y a aucun moment où je dis « Bah voilà, ça s'est passé comme ça. » Mais je reconstitue la soirée à partir de mes souvenirs, de ce que je lis dans les médias et de ce que je suis de l'enquête. Et c'est comme ça, à la fin, que j'ai mon 13 novembre, si je puis dire. Je sais parfaitement que mes souvenirs peuvent être trompeurs. Voilà, on sait tous ici... comment on doit aborder les témoignages.
J'aimerais justement qu'on s'y arrête, parce qu'on le sait tous ou pas. Jusqu'où le témoignage fait-il histoire? C'est intéressant, parce que vous êtes vous-même historien. Mais est-ce qu'un témoignage suffit pour écrire l'histoire? Yannick Ripa, votre livre est truffé de témoignages. Et même d'ailleurs, à partir des témoignages des femmes que vous faites cette contre-histoire, enfin cette histoire féminine de la France.
Oui.
Mais le témoignage, par exemple.
Je pense que la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est qui est le témoin? Comme vous le dites, le sous-titre dit être historien et victime. Et en même temps, la victime, évidemment, l'emporte, et c'est normal face à l'horreur de ce que vous avez vécu. Et aussi, je veux dire, vous n'êtes pas qu'historien. Parce qu'en vous lisant, moi, je m'attendais à ce que vous expliquiez comment vous y intégriez désormais cette expérience absolument douloureuse et sur laquelle, je crois, personne ne peut rien dire, tellement c'est dur, intime, personnel. Comment vous alliez l'intégrer dans votre travail d'historien? Or, vous êtes non seulement historien, mais vous êtes aussi politiquement extrêmement engagé. Mmh. Et on lit, enfin, moi, j'ai plus lu un journal de quelqu'un qui est très engagé, qui a des connaissances que les autres victimes du Bataclan n'ont sans doute pas. Hein, vous surfez sur les différents sites que vous analysez avec des tas de noms que beaucoup de gens, je pense, ne connaissent absolument pas. Vous avez des prises de position très politiques qu'un historien n'aura pas. Évidemment. Et en même temps, on comprend, puisque vous êtes, comme vous expliquez, vous êtes au départ à la fois dans la douleur, la rage, puis les choses se calment et vous prenez du recul. Et c'est pour ça aussi que votre postface est, je crois, si importante. Mais du coup, pour répondre clairement à votre question, tout témoignage est utile à l'historien. Maintenant, c'est notre boulot de savoir qu'est-ce qu'on en fait en faisant attention, parce que tout témoignage n'est pas vérité, à supposer que même nous, on arrive à l'atteindre.
Avant d'écrire ce livre, qui est un plaidoyer pour le témoignage aussi, hein, et l'écriture, pas seulement comme exutoire, est-ce que vous étiez persuadé de ce que vient de nous dire Yannick Ripa, c'est-à-dire que le témoignage devait aussi être pris parfois avec des pincettes, qui ne constituaient pas seulement une vérité?
Il faut croiser les sources.
Ce que je fais, ce que je disais par rapport à la reconstitution, c'est un exemple qui est presque anecdotique dans le livre, mais le fait de reconstituer la soirée à partir de mon témoignage, d'autres témoignages, des faits scientifiques, etc. Voilà, c'est ce genre de démarche que j'ai essayé de faire. Mais effectivement, je dis d'où je parle, vous avez raison. Je dis franchement de quel bord politique je suis, qu'il y a aussi c'est un livre en partie politique, même si ce n'est pas un essai. Oui, c'est fondamental de dire d'où on parle, c'est même une question d'honnêteté.
Si on doit le définir comme ça, vous parlez d'où?
Pour faire simple, ce serait la gauche plus... plus à gauche qu'une autre gauche, on va dire.
Très, très, très
bien. Voilà. Mais en fait, sur certains points, je ne vais pas être d'accord, justement, et notamment sur les questions du djihadisme, de l'islamisme, etc. Ce que je dis dans le livre, je vais pouvoir, et je l'ai encore fait récemment avec des amis, notamment historiennes, avec lesquelles on n'est pas d'accord, et qui trouvent que mon livre, par certains aspects, peut être un peu dur, injuste, etc. Et je suis prêt à le reconnaître, il n'y a pas de souci.
Vous le reconnaissez?
Parce que
ce que je trouve frappant dans le livre, et on ne l'aurait pas accepté d'un autre historien, c'est cette part de colère, et parfois de colère un peu injuste, ou en tout cas gratuite.
Gratuite, je ne sais pas, parce que je pense que... c'est pour ça que je voulais vraiment qu'il y ait cette postface pour montrer que, même si je suis toujours en colère après certaines personnes, mais ce n'est pas des gens que je connais personnellement, donc ce n'est pas grave. Mais
c'est le militant blessé?
Peut-être, oui, mais je pense que c'est parce que ce qui me rend un peu en colère aussi, c'est que pour moi, tout ça, ça a des conséquences. À mi, c'est pas ma personne, c'est pas grave, j'ai avancé entre-temps, et heureusement, j'ai pris du recul et je me suis apaisé. Mais je vois l'ambiance générale qu'il y a aujourd'hui en France, et je vois des amis qui continuent, pour moi, hein, je peux me tromper, mais je pense continuent à aller dans les mêmes erreurs, et c'est ça qui me rend un peu triste, plus qu'en colère maintenant. Et dans le livre, voilà, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un essai d'histoire, c'est un livre qui est à la fois un témoignage, un recul personnel sur le propre témoignage, c'est un mélange, c'est un truc un peu hybride.
Vous dites que c'est pas un livre d'histoire, mais est-ce que le Bataclan est rentré dans l'histoire avec un grand H, ou est-ce que c'est un épiphénomène, un phénomène de société qui n'est pas encore de l'histoire avec un H majuscule?
Alors, je ne sais pas si c'est de l'histoire, mais je sais que Péchanski, justement, il en a parlé, il a dit ce qui est intéressant, c'est par rapport aux autres attentats. J'ai rien que par rapport au 13 novembre, on dit toujours les attentats du Bataclan, alors qu'il y a eu plein d'autres sites qui ne sont jamais cités, ce qui est d'ailleurs très violent pour les victimes des autres sites, c'est comme si elles n'existaient pas. Et même par rapport à d'autres attentats, notamment Nice ou... Le Bataclan prend une place, il est en train d'étudier ça, il essaie de voir pourquoi le Bataclan est en train de prendre une place plus vraiment centrale quand on parle des attentats djihadistes en France. Voilà, c'est le petit recul qu'on peut avoir par rapport à ça. Après, je pense que c'est encore trop tôt pour parler d'affaires.
Mais moi, ce qui m'a frappé quand même très fort, c'est le document brut. Alors évidemment, vous avez un travail que je trouve tout à fait passionnant entre Charles Martel aujourd'hui, le travail de la postface qui reprend ce que vous avez éprouvé. Mais je crois qu'il faut s'attarder sur ce que vous avez éprouvé, parce que ça me paraît extrêmement révélateur de ce que provoquer une situation atroce, avec un trauma. Si vous voulez, moi, ce qui m'a surpris, par exemple, c'est que lorsque vous retrouvez votre classe, votre crainte, c'est la fenêtre qui devient un lieu de fragilité, parce qu'on peut à nouveau agresser. Donc, on voit comment les personnes qui ont subi ce genre de situation épouvantable restent extrêmement marquées. Et ça, vous le montrez très, très bien. Je trouve que c'est très précieux. Parce qu'on l'oublie. On sait très bien qu'il y a des traumas, etc. Mais on le sait de façon intellectuelle. Et ce que vous renvoyez, c'est au contraire la façon de le vivre. Et je trouve que c'est précieux. Il faut s'attarder à ça.
Moi, il me semble aussi que le poids du Bataclan est lié aussi au fait que c'est un lieu qui était déjà connu, qui était un lieu festif, avec beaucoup de jeunes, et que c'est un lieu qui demeure.
Le symbole de ce qu'il représentait.
Le symbole de ce qu'il représente, s'en prendre à la jeunesse, s'en prendre à la fête, et c'est un lieu qui plus est à Paris qu'on connaît. Moi, j'ai des collègues historiens qui m'ont dit, le premier soir, quand on s'est appelé, tes enfants n'y étaient pas, etc., qui m'ont dit, c'est notre Bataclan. Alors que ce qu'ont vécu les gens de Nice en disant c'est notre prom, mais c'est un lieu où il y avait plein de gens et où ça bouge et il reste rien quoi. Mmh. Alors que là il y a le lieu et qui devient un symbole. Et ce que disait Georges Vigarello, le trauma pour vous est immense, mais il a joué aussi sur les jeunes. Quand on a retrouvé les jeunes, c'était pas, enfin moi je sais qu'à la fac ils n'avaient pas le même comportement que au moment de Charlie. Là c'était c'était eux, quelque part. Et ce que vous disiez à juste titre de la fenêtre, moi, j'ai des étudiants qui m'ont dit « Mais si ça arrive, on sort par où ?» Donc, il y a ce fait que c'est un lieu clos, ce qui rend les choses encore plus terribles, je pense.
C'est un chapitre, évidemment, que vous abordez dans votre livre, Christophe Naudin. Les jeunes sont très présents. La manière dont on peut enseigner l'histoire aussi aux jeunes est très présente. Vous le racontez en vous posant la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on leur dit ? Les questions d'un prof d'histoire en collège, par exemple, qui se demande si certains de ses élèves sont de futurs djihadistes.
Oui, alors après, j'ai aussi vécu, comme mes autres collègues, le post-attentat de janvier 2015, donc notamment contre Charlie Hebdo, parce qu'il y a aussi l'hyper-cacher. Et d'ailleurs, c'est pareil, on parle toujours beaucoup de Charlie.
De Charlie, on
mais
oublie
l'hyper-cacher, on en parle beaucoup moins. Les élèves sont beaucoup dans... Il faut d'abord les écouter, en fait. Ça, c'est très important. Il faut, notamment quand il y a un événement traumatique comme ça, écouter les élèves. Ils ont besoin de s'exprimer. Et pour Charlie Hebdo, j'ai entendu beaucoup de choses. Rien de scandaleux, des petites provocations, des choses comme ça. Et je raconte dans le livre, c'est une élève qui m'a un peu... fait froid dans le dos, on va dire, parce qu'elle était c'était ma meilleure élève en histoire, et elle savait parfaitement où s'arrêter pour ne pas sortir, pour ne pas tomber dans l'apologie. Mais je savais parfaitement ce qu'elle pensait. Elle trouvait ça très bien, l'attentat contre Charlie Hebdo. Mais les autres, c'était vraiment, on pouvait parler avec eux, ils avaient besoin d'en parler. Et après ce qui m'est arrivé à moi, on a voulu déjà, parce que j'étais avec un collègue aussi, un autre collègue du même collège, qui était prof de musique, on avait envie que les élèves le sachent pour pas qu'il y ait de rumeurs, ce genre de choses. Donc je me suis retrouvé face à des élèves qui savaient que j'étais au Bataclan, mais en même temps qu'osaient pas forcément m'en parler. D'ailleurs, ils ont été très pudiques. Moi, je voulais pas forcément leur en parler. Mais il fallait faire avec.
Il y a des moments qui sont des moments d'ailleurs bouleversants d'empathie ou de compassion à votre égard. C'est-à-dire où ils sont très prévenants. Et c'est l'élève qui ménage le prof, là.
Oui, là, c'est vraiment ça. J'ai eu la chance d'avoir des élèves qui m'ont vraiment, enfin, je peux le dire, qui m'ont, même si ce n'était pas volontaire, qui m'ont soutenu, en fait. Et travailler avec eux sur ces sujets-là, j'ai toujours ça. C'est vrai que j'arrive pas encore totalement à me situer par rapport à ça. Tout que le temps a passé. Depuis, il y a eu aussi l'assassinat de Samuel Paty. Donc j'ai encore du mal, je me retrouve avec des élèves maintenant qui pour la plupart ne sont pas au courant que j'y étais comparé aux élèves d'avant. Donc j'ai encore un peu de mal à me situer par rapport à ça et à utiliser dans le bon sens du terme le Bataclan pour transmettre aux élèves.
L'un des points, je voudrais revenir à l'histoire et à l'historien, l'une particularité, on l'a dit, c'est que vous êtes un spécialiste de l'islam médiéval. Vous avez donc regardé avec beaucoup d'attention ce qu'écrivait l'État islamique dans ses brochures, dans ses journaux. Et vous racontez que dès 2015, vous êtes parfaitement conscient que la menace est clairement pointée et établie par l'État islamique. Ce sont les enseignants.
Entre autres.
Entre autres, enfin, en tout cas, ils le disent. L'assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre dernier, vous a surpris ou vous apparaît-il comme le prolongement de ce qui a débuté le 13 novembre ?
Alors la violence de la, enfin de l'acte et du moment, évidemment, j'étais comme tout le monde en sidération, mais ça m'a pas surpris parce que, alors même si l'enquête est en cours, mais a priori il n'y a pas de lien direct entre l'assassin de Samuel Paty et l'État islamique. Dans cette idéologie, il y a ce symbole que représente l'enseignant qui parle de laïcité, qui parle de liberté d'expression. Etc. Et donc, je l'écris parce qu'effectivement, en décembre 2015, l'État islamique, dans sa revue, qui ne paraît plus, a priori, vise explicitement les enseignants parce qu'ils transmettent la laïcité, parce qu'ils transmettent, enfin, ils parlent des valeurs de la République, l'égalité femmes-hommes, la tolérance envers l'homosexualité, etc. Enfin, tout ce que l'État islamique rejette. Et ils disent clairement, il faut s'attaquer aux enseignants, aussi aux travailleurs sociaux, entre autres. Donc, quand vous parliez de la fenêtre, il y avait ça aussi, c'est-à-dire que il y avait le trauma de voilà de à chaque fois qu'on sort, on regarde les issues, ce genre de choses.
Aujourd'hui encore ?
Oui, mais moins. Mais là, je vous avouerai que l'assassinat de Samuel Paty, ça m'a refait sentir des choses. Et puis d'autres événements qui me font redevenir à nouveau hyper vigilant. Pas autant qu'en 2016, heureusement. Mais... Donc il y a ça. Mais il y avait aussi le fait qu'en tant qu'enseignant, on était... Et les écoles aussi, pas que les enseignants, les écoles. Parce que,
oui, il y a du symbole. Quoi, ouais.
Voilà. Et avec Mohamed Merah en 2012, on sait que les écoles aussi sont des cibles potentielles. Donc il y avait un tout et je vis toujours avec ça, mais je le vis mieux quand même qu'il y a trois ans, heureusement.
Il y a énormément de points qui me semblent être des portes d'entrée pour comprendre comment on écrit l'histoire dans votre témoignage. Et notamment, et là j'aimerais avoir le regard aussi de Georges Vigarello, j'allais dire l'histoire des émotions. Et la manière dont l'émotion, écrivez-vous aujourd'hui, a remplacé la pédagogie. Vous vous élevez, vous, contre l'utilisation des images, les images des corps notamment. Vous racontez à quel point vous êtes choqué quand une chaîne que je ne nommerai pas propose un documentaire qui se vante de plonger le téléspectateur dans la terreur, comme s'il y était, avec animation en 3D et images vidéo amateurs. Aujourd'hui, on va clairement, parfois, vers cette dérive sur un certain nombre de chaînes où ce sont des documentaires grand spectacle, où le sensationnalisme devient une façon d'écrire l'histoire. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette tendance, pour vous, prof d'histoire en collège ?
Alors, je ne suis pas contre les images, mais utiliser des images pour juste émouvoir. Je me suis posé plusieurs fois la question avec les élèves de quoi leur montrer, notamment quand j'avais des troisièmes, quand on faisait l'histoire des génocides, etc. Par exemple, moi, quand j'étais collégien, j'ai vu Nuit et brouillard. Mm. Et maintenant, c'est pas que je veux pas le montrer aux élèves, mais je...
Vous écrivez quand même que vous refusez de leur montrer.
Maintenant, oui.
D'Alain René.
Oui, mais j'y réfléchis encore, mais je sais pas, je vois pas, il faudrait que je le revoie, mais je vois pas, vu comment on l'aborde maintenant, je vois pas ce que ça apporterait de concret à mes élèves de le... Alors évidemment, on va pas montrer les images en tant que telles. On les contextualise, etc. Mais j'ai évolué là-dessus. Peut-être qu'il y a quelques années, je les aurais montrées, ces images. Mais je fais le lien avec l'actualité. C'est-à-dire, peut-être que là, ça se bouscule un peu entre histoire et actualité. Mais par exemple, les images qu'on voit, je cite Elan aussi, le petit réfugié, qui est cette image-là qui a fait le tour du monde, qui a été caricaturée par Rice, etc. Tout le monde était ému, évidemment. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a eu après ? C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas eu de conséquences pour les réfugiés, de conséquences positives pour les réfugiés, etc. Et je parle aussi, et c'est de là en fait que je pars, de la photo de la fosse du Bataclan. Vous avez des gens qui utilisent cette photo qui était interdite en fait, qui a été très vite retirée des réseaux sociaux, mais qu'on peut trouver malheureusement très facilement, pour dire, regardez, c'est ça qu'il faut montrer, c'est cette image-là qu'il faut montrer aux gens pour qu'ils comprennent les attentats. Et pour moi, c'est pas en montrant une image de cadavres et de sang partout qu'on va comprendre,
oui.
En fait.
Oui, je voudrais dire un mot sur un paradoxe, parce que où je vous suis totalement, c'est lorsque vous dites que finalement c'est l'émotion qui a dominé dans les commentaires au détriment de l'interprétation. Là, je crois que c'est effectivement parfaitement bien démontré. Mais je trouve que l'émotion est porteuse quand même d'un paradoxe qui est le suivant. D'un côté, l'émotion est beaucoup plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'était. Les traumas, par exemple, lorsqu'ils sont racontés, sont beaucoup plus complexes qu'ils ne l'étaient, ce qui, à mes yeux, renvoie à un enrichissement psychologique. Mmh. Et de notre côté, cet enrichissement psychologique se fait au détriment de la compréhension. Donc il y a bien ces deux phénomènes qui sont, à mes yeux, très importants, parce qu'on voit que finalement les individus se sont, dans une certaine mesure, étoffés, approfondis, complexifiés, et cela peut-être au détriment de la compréhension.
Mmh. André Comte-Sponville.
Oui, parce que c'est un livre de témoignages, mais aussi de réflexion, beaucoup plus de réflexion que d'émotion, parce qu'il est historien, alors militant, oui, en l'occurrence de la gauche radicale, on peut dire ça comme ça, sauf que, sur le fond, les positions qu'il défend sont en vérité beaucoup plus équilibrées qu'on ne pourrait le croire. C'est-à-dire qu'au fond, vous vous battez contre deux fronts. D'un côté, l'islamophobie classique, le racisme anti-musulman, qui voudrait nous faire croire que tout musulman est un terroriste en puissance, ce qui, bien sûr, est idiot. Mais autre front, vous battez contre ceux qui prétendent qu'il n'y a aucun rapport, ça n'a rien à voir, entre les islamistes terroristes d'un côté et l'islam de l'autre. Parce que vous pensez, vous, qu'il y a malgré tout un rapport, je suis d'ailleurs d'accord avec vous, et que la question religieuse au sein du terrorisme islamiste doit être analysée en tant que telle. Vous voyez. Or, cette position, qui est une position finalement médiane d'équilibre, que moi je crois profondément juste,
difficile,
alors, vous la dites dans des termes de colère contre tel ou tel que vous désignez nommément, ce que je ne ferai pas ici, mais si on laisse de côté la colère de la parole, qui se comprend par ailleurs très bien de votre point de vue, c'est une position plutôt équilibrée et je crois qu'il faut le dire. Parce
et
que
de réflexion sur l'histoire.
Du tout, de ce
Non. Je veux dire, j'ai bien dit qu'il avait été écrit avec la rage. Alors, qu'on comprend.
Journal d'un rescapé du Bataclan, Christophe Naudin, c'est publié aux éditions Libertalia. Alors nous allons maintenant parler d'un homme qui fut lui aussi témoin. Alors, à sa façon, pas victime des attentats, mais tout de même témoin d'une guerre de religion ainsi que d'une pandémie, pas de Covid, certes, mais de peste, et c'est Montaigne. Il est le contraire d'un maître à penser, il fait l'éloge de la joie, il ne dédaigne pas les plaisirs, il entend vivre au présent, et surtout, toujours être en mouvement. Sa sagesse, la sagesse de Montaigne, pourrait bien nous être utile par les temps qui courent. Montaigne est peut-être l'esprit le plus libre qui soit. C'est l'un des écrivains, vous le savez, les plus fraternels, les plus géniaux également. Et le philosophe, André Comte-Sponville, je dis bien philosophe, hein, c'est pas en tant qu'historien, lui consacre un dictionnaire amoureux aux éditions Plon. Un dictionnaire amoureux qui est autant une porte d'entrée remarquable dans l'œuvre et la vie de Montaigne qu'une autobiographie en creux d'un philosophe du siècle 21. Je voudrais qu'on commence par poser le contexte, si vous voulez bien, André Comte-Sponville. 16e siècle, fin de Renaissance, mais surtout les guerres de religion qui ensanglantent la France pendant plus d'une cinquantaine d'années. Montaigne en est le contemporain. À quel point, d'ailleurs, est-il marqué par ces guerres de religion entre catholiques et protestants?
Il est marqué très profondément. L'église du château de Montaigne a été brûlée. Il a été empastillé par les catholiques.
Alors qu'il est catholique ultra.
Mais par les extrémistes de la Ligue. Les extrémistes catholiques de la Ligue ont fait empastiller Montaigne pendant 24 heures. Mais il a été libéré sur intervention express de la mère du roi. Et sinon, peut-être qu'il aurait passé des années. Si vous voulez. Non, il était confronté...
Alors, pardonnez-moi, pardon de vous interrompre tout de suite, mais est-ce que ça met ou ça place Montaigne dans une situation proche de celle que Christophe Naudin a pu vivre et raconter, c'est-à-dire de quelqu'un qui, parce qu'il fait l'expérience de la prison dans une guerre, qui est une guerre extraordinairement violente, voit sa façon de penser un petit peu percutée par l'histoire avec un grand H.
Non, il n'est pas victime au sens où Christophe Naudin l'est. Il a échappé au pire. Bon, 24 heures à la Bastille, malgré tout, c'est pas, il y a pire, si vous voulez. Et puis, il a quand même la chance d'être un seigneur. C'est le seigneur de Montaigne. Il vit confortablement. Et puis, confronté à cette horreur des guerres de religion... c'est profondément un modéré. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être modéré au sens où Montaigne l'était? C'est de se sentir plus proche des modérés du camp d'en face que des extrémistes de son propre camp. C'est-à-dire que Montaigne est beaucoup plus proche d'un protestant modéré que d'un catholique extrémiste, plus proche de Henri IV, qu'il a reçu deux fois dans son château.
Mais ça, c'est quand même extraordinaire. Parce que
des extrémistes de la Ligue.
Oui, il est supposé, d'ailleurs... Alors, vous en parlez peu. Ça... Le Montaigne agent secret, vous n'y croyez pas beaucoup. Celui qui aurait été utilisé par...
Qui me passionne. Parce que ça n'est pas un livre d'histoire, disons les mots. C'est un livre... de philosophie, de littérature. Moi, ce qui m'intéresse, au fond, dans ce que dit Montaigne, c'est ce qui est vrai aujourd'hui. Alors, je pense que l'essentiel de ce que dit Montaigne est vrai aujourd'hui. C'est pourquoi ça relève de la philosophie, puis ça relève de la littérature, parce que, vous l'avez dit en passant, c'est l'un des plus grands écrivains français. Le plus grand écrivain français, disait André Gide, qui s'y connaissait en littérature. Moi, je dirais l'un des deux plus grands écrivains français, l'autre étant Victor Hugo. Mais ça dit assez à quel niveau on se situe. Et puis, cet écrivain de génie est aussi un immense philosophe qui inaugure non seulement la philosophie française, mais peut-être bien la philosophie moderne. Parce que pour moi, celui qui ouvre la philosophie moderne, ce n'est pas Descartes, comme le disait Hegel, c'est Montaigne.
Vous écrivez, il ne croit guère à la philosophie.
Et c'est pour ça qu'il est excellent philosophe. C'est qu'il est un philosophe sans philosophie. Vous savez, Wittgenstein dira au XXe siècle, la philosophie n'est pas une doctrine, mais une activité. Eh bien voilà, Montaigne n'a pas de doctrine, il est profondément sceptique, mais il ne cesse de pratiquer cette activité philosophante. Et puis encore, je voulais terminer en disant que cet immense écrivain, cet immense philosophe est aussi un type formidable, qu'on ne peut pas lire sans avoir le sentiment de rencontrer un ami. Et tous les plus grands l'ont dit depuis Tolstoï, Stefan Zweig, Nietzsche, etc.
Que vous citez d'ailleurs.
Cette intimité dans l'admiration, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Oui, et on a l'impression qu'effectivement, il est fraternel, qu'il nous parle comme si on était ses frères et comme s'il était d'aujourd'hui. Je voudrais revenir sur deux, trois points, justement, sur cette philosophie, cette fameuse philosophie de Montaigne. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on peut faire des études de philosophie en France sans jamais aborder Montaigne, que ce soit d'ailleurs au lycée ou plus tard à la fac. On peut d'ailleurs faire aussi des études, j'ai vérifié, de lettres sans jamais tomber sur Montaigne, enfin, qu'on nous explique pourquoi. Et j'imagine qu'on peut faire des études d'histoire sans jamais non plus tomber sur Montaigne. On le trouve où le Montaigne penseur, André Comte-Sponville, si on ne l'enseigne plus?
C'est un peu la singularité de Montaigne, c'est qu'il est à la fois philosophe et écrivain. Et comme il est philosophe, les profs de lettres se disent on le laissera aux profs de philo pour plus tard parce qu'ils trouvent ça un petit peu difficile conceptuellement. Mais comme il est écrivain, les profs de philo le prennent des fois un peu de haut en disant oh, « c'est pas vraiment un philosophe, c'est pas Kant, c'est pas Hegel, on va laisser ça aux profs de lettres ». Si bien que, si je veux dire, Montaigne non seulement est puni par où il n'a pas péché, mais il est puni par où il a réussi excellemment, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire dans les essais, c'est que c'est à la fois de la philosophie et de la littérature, et pas 50% de chaque. Ouais. C'est 100% de philosophie, 100% de littérature, et au sommet dans ces deux genres, ce qui est un cas tout à fait inouï.
Vous confessez d'ailleurs que vous-même vous êtes laissé prendre au piège, c'est-à-dire que vous êtes venu, vous, philosophe, à Montaigne assez tard, en tout cas après avoir déjà pensé un système...
Piégé par l'université, c'est-à-dire que moi, je n'ai eu aucun cours de philosophie sur Montaigne. J'ai pourtant fait de bonnes études classiques jusqu'à la grecque, aucun cours de philosophie. Et c'est donc quand je me suis plongé dans la lecture de Montaigne, poussé par mon maître Marcel Conche, par ce qu'en disait Alain, Nietzsche, etc., quand j'ai fait l'effort, parce que ça reste une lecture difficile, la langue n'est plus tout à fait la nôtre, de me plonger dans Montaigne, j'ai été sidéré d'abord par la beauté de l'écriture qui est inouïe, mais aussi par cette liberté de penser. C'est le plus libre des esprits libres. Et justement parce qu'il ne croit en aucune doctrine absolue, mais qu'il cherche la vérité. Parce qu'il n'est pas non plus un sophiste qui vous dirait « rien n'est vrai, tout est faux ».
Il n'y a pas de relativisme.
Il se bat pour ses idées, mais avec le sentiment clair qu'il n'atteindra jamais la certitude. Voilà.
Alors, prenons quelques exemples, justement, des idées de Montaigne et puis des idées incarnées. Ce qui est très important, très frappant aussi dans votre dictionnaire, car vous y revenez souvent à travers les différentes entrées, c'est que c'est un éloge de l'action. Nous sommes nés pour agir, écrit-il. Comment faut-il comprendre cette philosophie de l'action?
D'abord, que Montaigne ne passe pas son temps à se contempler le nombril ou l'ego. D'ailleurs, les essais, c'est un portrait philosophique. C'est moi que je peins, dit-il, sauf que ce qu'il peint en vérité, ce sont ses idées, parce que ce qui l'intéresse, effectivement, c'est ce mouvement en lui de la pensée. Et puis, c'est l'action. Parce qu'en effet, pour Montaigne, vivre, c'est agir. Alors, il le dit dans l'une des phrases les plus belles des essais de Montaigne. Montaigne écrit « Je veux qu'on agisse et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut. » Et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle et encore plus de mon jardin imparfait.
C'est vrai que c'est admirable.
En une phrase, je veux qu'on agisse.
Génial.
Que la mort me trouve plantant mes choux, c'est-à-dire au cœur même de l'action, et de l'action, vous voyez, la plus humble en quelque chose, mais nonchalant d'elle et encore plus de mon jardin imparfait. Le jardin imparfait, c'est la vie telle qu'elle est. Et donc Montaigne nous propose un art de vivre partant de catastrophes, parce qu'il y a la peste, il y a les guerres de religion, mais aussi un art d'accepter notre finitude, notre imperfection. Il ne s'agit pas d'inventer une sagesse absolue à la façon d'Épicure ou de Spinoza. Et c'est pourquoi, dans ma propre vie, il a joué un rôle tellement important. C'est que moi, à 18-19 ans, j'étais fasciné par des sagesses beaucoup plus radicales, beaucoup plus absolues, plus ambitieuses, celle d'Épicure, celle de Spinoza spécialement. Et puis Montaigne, 20 ans plus tard, m'aide à comprendre que ça ne marche pas, que c'est normal et que ce n'est pas grave.
Mais je reviens sur plantant mes choux. Parce que plantant mes choux, c'est vraiment, et c'est très important, à mon avis, à la Renaissance, c'est très important chez Montaigne, c'est une sorte de valorisation considérable du présent. C'est-à-dire que le présent, c'est ce qui est le plus précieux. Et c'est sur quoi il faut absolument se pencher. Je trouve que c'est une des grandes originalités, cela.
Bien sûr, c'est un thème de toute sagesse, vivre au présent.
Le présent.
Sauf que Montaigne montre qu'on est programmé par la nature pour vivre toujours au futur. Et donc, à nouveau, il nous montre qu'il faudrait vivre au présent, mais on ne sait pas. Et c'est peut-être l'un des très rares philosophes qui explique que la philosophie, c'est formidable, c'est passionnant, mais ça ne marche pas.
Oui, mais le présent
c'est bien quand même. C'est bien quand même.
C'est bien quand même.
Autrement dit, si vous voulez, là où certains font comme s'ils avaient découvert tout à coup le salut, comme dirait Spinoza, la certitude, Montaigne montre que c'est impossible. Et là-dessus, avec moins de génie spéculatif que Spinoza, c'est clair, mais plus de lucidité philosophante, c'est Montaigne qui a raison.
Je me permets de revenir un instant sur le présent. Ça me paraît très important, personnellement, parce que une des grandes originalités de Montaigne, c'est pas la seule, mais c'est quand même de s'écouter et d'essayer de parler de ce qu'il éprouve. Et ça, je trouve que c'est très fort, parce que c'est un des premiers grands témoignages, finalement, de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'autobiographie. C'est très présent, ça, je trouve.
Bien sûr, toute la sagesse de Montaigne se résume en une formule à l'extrême fin des essais. Pour moi, donc, j'aime la vie.
La vie est plus importante que la pensée, même, chez Montaigne.
Oui, bien sûr, parce que la pensée ne sert que si elle vous aide à vivre mieux. Vous voyez, mais ça veut dire que...
Attendez, André Comte-Sponville, pendant des années, y compris sur ce plateau, vous nous avez dit la philosophie, son rôle, c'est ça. Vivre mieux, penser mieux pour vivre mieux.
Et Montaigne le confirme.
Ça le fait doucement rigoler.
Non, Montaigne le confirme, sauf qu'il nous aide à comprendre que, et ça je l'ai dit peut-être même sur ce plateau aussi, il s'agit de penser sa vie et de vivre sa pensée, sauf qu'on n'y arrive jamais tout à fait. Il y a toujours du non-vécu dans toute pensée, et du non-pensée dans toute vie. Et donc, on n'arrive jamais à cette unité, cette fusion totale de la pensée et de la vie que serait la sagesse. Mais là encore, Montaigne nous explique donc qu'on n'y arrive pas, mais ce n'est pas grave, et nous propose une autre sagesse, que j'appelle une sagesse de second rang.
C'est-à-dire
une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens où Épicure ou Spinoza pouvaient l'être, une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Eh bien, une sagesse pour des gens qui ne sont pas des sages, c'est une sagesse pour vous et pour moi. Personne ici ne prétend être un sage. Et c'est pourquoi Montaigne est d'autant plus philosophe qu'il croit moins à la philosophie et d'autant plus sage qu'il a cessé de croire à la sagesse. Et cette leçon-là, moi, je la trouve extraordinairement éclairante.
Est-ce que c'est la raison également, André Comte-Sponville, pour laquelle il fait tant l'éloge de la joie, mais aussi des plaisirs? Vous écrivez que c'est un hédoniste, voilà. Encore faudrait-il préciser le sens de ce mot. Même si vous le trouvez, alors ça m'a surpris, page 80, je lis sous votre plume que vous le trouvez, Montaigne, faible, inconstant, versatile, pour ne pas dire bipolaire.
Mais c'est lui qui le dit, hein, tout ça, je donne les références à chaque fois. Non, c'est que Montaigne est beaucoup moins doué pour le bonheur qu'on ne le croit. Peut-être plus qu'il ne le dit, parce que c'est lui qui fait de lui-même le portrait d'un être mélancolique, inquiet. Dès qu'il y a quelque chose qui va mal, il a tendance à déprimer complètement. Vous voyez, ça n'est pas un ravi de la crèche.
Parce qu'il est très exigeant.
Il n'est pas spécialement doué pour le bonheur.
Si je puis me permettre, comment vous articulez ce que vous appelez la sagesse, sur lequel on pourrait aussi faire 10 émissions facilement, et l'exigence qu'il a? Par exemple, évidemment, quand il parle de l'amitié, il dit bien qu'il y a deux types d'amitié. Il y a ce qu'on appelle amitié, je crois qu'il dit ordinaire, je ne sais plus si c'est le mot. Et puis, il y a la véritable amitié, ce qu'en clair, on a tous retenu du peu qu'on a étudié Montaigne dans le secondaire, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Point. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a conservé de Montaigne quand on a fait des études sur lui dans le secondaire. Mais moi, j'ai trouvé dans ce que vous montrez qu'il est extrêmement exigeant. Or, comment, quand on est exigeant pour l'éducation, pour les sentiments, pour le goût de la vie, on peut avoir une forme de sagesse, puisqu'en réalité, il est plutôt... Enfin, moi, je l'ai plutôt vécu. Et d'ailleurs, je vous remercie vraiment de nous tenir par la main pour découvrir Montaigne. Moi, j'ai trouvé son écriture délicieuse, alors que j'en avais un souvenir très âpre, parce qu'on donne ça, en plus, quand on est au lycée. Je crois qu'on étudie ça un peu en cinquième, et après en seconde. Franchement, en cinquième, Montaigne, ça ne se fait plus du tout. Mais même à mon époque, on n'est pas apte à saisir la beauté du mot, du verbe. Et du coup, le terme sagesse me surprend un peu. Moi, j'ai trouvé tout sauf sage.
Alors, revenons... Voilà.
D'abord, j'ai fait ce livre, parce que vous avez raison, lire Montaigne, c'est difficile. Et j'ai voulu le rendre accessible aux lecteurs d'aujourd'hui, d'abord en gardant les plus belles pages. Il y a beaucoup de citations. Un dictionnaire amoureux, c'est forcément une espèce d'anthologie. Et donc, j'ai voulu accompagner le lecteur. Quant à la sagesse, la réponse à votre question, c'est « nous sommes nés pour agir ». La sagesse, ça n'est pas un état, c'est un acte. Et donc, il y a une façon sage de faire des études, d'enseigner, de faire de la politique, etc. Ça n'est pas du tout une sagesse en repos. Parce que ça remet ce qu'il appelle dans ses titres de ce livre, une sagesse en mouvement.
Il y a énormément d'entrées qui sont, je ne peux pas résister, parce qu'on va parler avec Yannick Ripa de l'histoire féminine de la France. Il y a une entrée consacrée à celle par qui on a pu pendant longtemps lire Montaigne dans la troisième édition, celle de 1595, Marie de Gournay. Qui était Marie de Gournay, dont vous écrivez, alors là ça c'est du comte Sponville, qu'elle est l'une de nos premières féministes.
Mais bien sûr, et je disais à Yannick Ripa, qui dit la même chose d'Olympe de Gouges. Vous dites dans votre livre, Olympe de Gouges, c'est la première féministe.
Oui, à la Révolution française.
Disais, amicalement, respectueusement, n'oubliez pas Marie de Gournay, qui malgré tout, c'est deux siècles plus tôt, qui écrit un livre, deux livres, dont le titre c'est « Égalité des hommes et des femmes », et le second c'est « Grief des dames ». Et c'est une militante. C'est une féministe militante, c'est une féministe de combat. Et donc, il est très intéressant que cette jeune fille, c'est comme ça que ça s'est passé, à 18 ans, elle est totalement autodidacte, elle n'a pas fait d'études, elle a appris le latin toute seule en comparant des textes latins aux traductions, et puis elle tombe par hasard sur les Essais de Montaigne. Elle est éblouie, fascinée. Et donc, elle écrit à cet homme qu'elle admire, qui a 32 ans de plus qu'elle, en lui proposant de venir la voir. Et Montaigne va la voir, il va au château de Gournay en Picardie, c'est mes souvenirs sont bons, il passe plusieurs jours avec elle, ils s'écrivent, ils se revoient. Et il y a cette espèce d'amitié, alors amitié amoureuse peut-être, apparemment il n'y a sans doute rien eu de sexuel entre eux, mais ce qui est très beau, c'est que Montaigne, qui a toujours préféré l'amitié à l'amour, l'amour pour lui étant de l'ordre de la rencontre des corps et l'amitié étant de l'ordre de la fusion des âmes, et il regrette, dans le chapitre sur l'amitié, qu'on ne puisse pas vivre les deux ensemble. Mais il pense que c'est impossible parce que lui, il est hétérosexuel et les femmes ne sont pas capables d'amitié, pense-t-il sottement, mais c'est ce qu'il pense à l'époque. Et puis, sur le tard, à la fin de sa vie...
Il a les préjugés de son temps.
Oui.
À la fin de sa vie, il rencontre cette jeune femme, 18 ans, 22 ans quand il se rencontre, et il comprend qu'il avait tort. Qu'une femme, on peut être ami avec une femme, que les femmes sont tout à fait capables d'amitié. Et donc, pour conclure, Montaigne n'est pas féministe. Il est beaucoup moins misogyne que la plupart des gens de son temps, mais il partage en effet, je le dis dans le livre, plusieurs des préjugés traditionnels à l'époque sur les femmes. Mais ça n'est sans doute pas un hasard. Si cet esprit tellement libre de Montaigne a aidé Marie de Gournay, elle, à devenir féministe. Et donc, c'est une espèce d'hommage, malgré tout, à rendre à Montaigne que de constater que, en plein XVIe siècle, la lecture des essais peut aider une jeune fille, à une époque où c'était inouï, à devenir notre première féministe.
Il faut suivre la recommandation de Flaubert, le saint patron de cette émission, comme de tous ceux qui aiment la littérature. Flaubert qui écrivait « Étudiez Montaigne à fond, je vous l'ordonne comme médecin. Lisez-le lentement, posément, lisez-le d'un bout à l'autre, et quand vous aurez fini, recommencez. » Dans quelle édition, d'ailleurs, recommence-t-on à lire Montaigne ? Parce que ça, c'est un vrai débat. Mais donnez à ceux qui nous regardent ce soir, André Comte-Sponville, un indice. Parce que c'est vrai que ça peut être difficile, parfois même décevant.
Quelque chose qu'il faut éviter, c'est les éditions qui présentent le texte original sans moderniser l'orthographe. Parce que là, ça devient une difficulté effrayante. Donc, il faut au moins choisir une édition où l'orthographe est modernisée.
Ouais.
Si vous arrivez à le lire, bah, continuez comme ça. Si ça vous paraît trop difficile, prenez sans hésiter une traduction en français moderne. Je donne la référence de trois éditions récentes en français moderne qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies.
Voilà, on peut commencer par exemple avec l'édition Folio ou la Pochothèque. C'est une façon d'être au plus près du sens et du texte, c'est ça ?
C'est les deux mais voilà, alors je n'ai pas en tête les références des éditions, mais je les donne dans mon livre, mais voilà. C'est au moins l'orthographe modernisée, si vous préférez, même une traduction en français moderne, pourquoi pas.
Le dictionnaire amoureux de Montaigne, d'André Comte-Sponville, publié donc aux éditions Plon. Avant d'ouvrir l'histoire féminine de la France, de Yannick Ripa, et l'histoire de la fatigue, de Georges Vigarello, je voudrais faire un petit détour et vous emmener, c'est très important, en librairie. Lucile Frassy est libraire à Versailles. Alors, il y a 16 ans, elle a ouvert sa librairie. La suite, c'est à quelques mètres seulement du château de Versailles, et il suffit de l'écouter pour comprendre à quel point. Mais oui, les librairies sont des commerces essentiels. Inès de la Motte-Saint-Pierre s'est rendue à Versailles.
Les librairies doivent rester ouvertes parce que c'est un poumon essentiel dans une ville. C'est vraiment un espace de respiration. On n'est pas là du tout pour se retrancher, pour se fermer au monde, mais au contraire, pour l'augmenter, pour lui donner des nouvelles dimensions. Une librairie ouverte, c'est laisser la place à l'humain, laisser la place aux imaginaires. Et dans nos sociétés, on a besoin de cet imaginaire. Il est vital, je pense, aujourd'hui, parce qu'on est malmené. Donc, c'est impératif que ces lieux restent ouverts pour qu'on puisse décharger ça et y retrouver une douceur qui nous enveloppe, qui nous réconforte et qui nous aide à avancer. Ma correspondance, la plus belle que j'ai lue, c'est vraiment les échanges de lettres entre Maria Cazares et Albert Camus. Histoire d'amour passionnelle, c'est vibrant de sensualité, c'est beau à pleurer, c'est déchirant, c'est magnifique. Mon livre qui fait du bien, c'est Le Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné. Ça nous raconte l'histoire d'une femme qui travaille dans une grande entreprise, qui n'en peut plus, qui est sur le point de s'écrouler. Et ce roman nous interroge sur notre aliénation au travail, notre besoin de liberté, notre soif de nature. Tout ça écrit à la manière d'un conte, c'est aussi extrêmement poétique. Vous pouvez vraiment le faire lire, mais à toutes les personnes autour de vous. Le grand livre, moi, qui m'a vraiment donné une claque, c'est « Rendre le monde indisponible » de Hartmut Rosa, qui est un philosophe et sociologue allemand. C'est l'essai le plus lumineux que j'ai lu pendant le confinement, parce que ça permet d'entrer à nouveau en résonance avec le monde, de rendre les choses spontanées, et je crois que c'est une des missions de la librairie. Mon livre féministe, c'est « À main nue » d'Amandine D. Elle interroge en fait le rapport intime qu'on a à son propre corps, aussi en fonction de ce que la société nous renvoie, en fonction de la norme, en fonction de son éducation. Et pour moi, un livre féministe, c'est peut-être ça avant tout, c'est de nous permettre de nous retourner sur notre propre expérience intime en tant que femme.
Il y a des livres féministes et puis il y a une histoire féminine à écrire. On commence par la France, mais on a envie maintenant d'entendre et de lire l'histoire féminine du monde, l'histoire féminine des États-Unis, l'histoire féminine de la Chine, enfin bref, de moderniser un peu tout cela. Et c'est grâce à vous, Yannick Ripa. Je rappelle que vous êtes historienne, que vous enseignez à l'université de Paris 8 et que vous nous offrez, j'allais dire, le livre qui fera mentir celles et ceux qui pensent que l'histoire a été écrite par les hommes, mais peut-être aussi les femmes qui, jusqu'à présent et à bon droit, avaient le sentiment que l'histoire des femmes était oubliée, non mémorisée, écrite à l'encre incolore. Histoire féminine de la France, de la Révolution à la loi Veil, c'est aux éditions Belin, très richement illustré, et c'est absolument passionnant, car vous proposez, Yannick Ripa, en réalité, de décentrer le regard, de raconter les événements à travers ce que vous, vous appelez le peuple femme, grâce aux témoignages, aux confidences, aux cris de révolte, parfois aussi de joie, de femmes qui, bien évidemment, firent l'histoire tout autant que les hommes. Alors, la grande historienne Michèle Perrault, qui signe la courte préface à ce livre, parle de revanche des oubliés. Est-ce que c'est ça que vous avez entrepris, la revanche des oubliés?
Quelque part, oui. Peut-être que je n'aurais pas eu l'audace d'employer le mot « revanche » comme le fait Michèle Perrault, qui a eu la gentillesse de faire cette préface. Mais quelque part, oui. Parce qu'effectivement, on a très longtemps, on le sait très bien, l'histoire a été écrite par des hommes, pour des hommes, parce qu'on a commencé par faire une histoire du pouvoir des rois, etc., il y a très très longtemps. Et il me semble que depuis que l'histoire des femmes existe, on avait déjà décentré ce regard, on avait essayé de voir quel était le rôle des femmes dans l'histoire. Moi-même, j'ai écrit le premier manuel en histoire des femmes qui s'appelait « Les femmes actrices de l'histoire » pour montrer que même quand on les avait enlevées du pouvoir, elles jouaient un rôle, parce que ne pas y être conduit à faire que la démocratie marche de guingois. Et j'étais appelée à peut-être décentrer encore plus le regard à partir de trois petites choses comme ça repérées. Au moment où on passe d'un siècle à l'autre, voire d'un millénaire à l'autre, il y a une enquête qui a été faite à l'adresse des féministes, beaucoup, et puis à l'adresse des femmes pas engagées. On a demandé aux femmes et aux hommes quel était l'événement le plus important du XXe siècle, à leurs yeux, en dehors des deux conflits mondiaux. Les hommes ont répondu, on a marché sur la Lune.
Ah bon?
Et les femmes
ça en dit long quand même.
Et les femmes ont répondu, la contraception. Et là, je me suis dit, mais il y a vraiment un temps des femmes, une approche de l'histoire qui est différente. En 1929, les témoignages d'hommes, c'est « nous n'avons plus de travail ». Les témoignages de femmes, c'est « on n'a jamais autant travaillé » parce qu'elles ont pris des petits boulots comme ça partout. Donc, il y a une chronologie du temps des femmes, du temps de l'histoire. Et je me suis dit, mais au fond, même quand on a beaucoup, et c'est formidable, parce que ce livre est très redevable à 50 ans de recherche derrière. Et c'est formidable qu'on ait redécouvert ce que les femmes avaient fait. Mais dans le fond, on a souvent utilisé des archives d'hommes parlant des femmes. Et on n'entendait pas beaucoup ce qu'effectivement j'ai osé appeler le peuple femme. Mmh.
Qu'est-ce que c'est le peuple femme, alors ?
Mais déjà, parce que quand vous êtes dans les archives, vous êtes très, très embêté par la grammaire française. 2000 manifestantes et 3 hommes, le compte-rendu, c'est des manifestants.
Oui.
Donc, elles sont où ? Le peuple femme, c'était pour montrer que le peuple n'est pas, même s'il est, on le sait, introuvable, ce peuple, il est aussi, il existe dans sa mixité, qu'on a souvent oublié, mais il existe aussi dans une dynamique, dans une position à travers la grande histoire, mais aussi la petite histoire. J'ai été très frappée par le fait que le quotidien des femmes est très lié à leur corps, parce qu'on les oblige à être épouses et mères, et que de ce fait, on emploie toujours même l'horloge biologique. « Ah, ton horloge biologique tourne, fais attention, il faut vite que tu fasses un enfant », dit-on encore aujourd'hui, même si les choses deviennent différentes avec tout ce qu'on arrive à faire maintenant. Mais du coup, ces femmes, elles se vivent avec des âges obligés, ce que les hommes n'ont pas. Il y a l'âge pour se marier, il y a l'âge pour faire des enfants, et les médecins en rajoutent, si j'ose dire, même si ce n'est pas très joli comme expression, une couche. Je veux dire qu'une femme, elle se vit, parce qu'on la vit et qu'on l'impose comme ça, comme perpétuellement malade. J'ai été très frappée de voir que le discours des médecins, que j'ai à une autre époque, au temps de ma thèse, beaucoup étudié, le langage des médecins sur les femmes l'ont intégré. Elles sont malades de puberté en grossesse, de grossesse en menstruation, d'allaitement. Et lorsqu'elles arrivent à la ménopause, elles écrivent qu'elles sont mortes au monde. Et vous trouvez ces mots-là dans des journaux intimes de toutes jeunes filles, avec des phrases, même d'ailleurs très étonnantes. Il y en a une qui dit « Purée, j'ai mes règles ». Je ne pensais pas du tout qu'on disait « purée » au XIXe siècle. « J'ai mes règles, on va pouvoir me marier. Je fais plus jeune que j'en ai l'air, je vais être tranquille un moment. » Donc il y a une histoire.
Il y a celle aussi qui écrit « brrr ».
Oui.
L'onomatopée qui dit tout de son désarroi.
Voilà.
Vous avez choisi de travailler, mais est-ce un choix ? Vous avez choisi de travailler en exhumant des journaux intimes de femmes de tous âges, de toutes régions également, mais aussi des correspondances, ça va jusqu'à la carte postale, c'est-à-dire tout ce qui peut être le témoignage écrit sur le vif d'une femme, quel que soit son âge, permet aujourd'hui de réécrire l'histoire ?
Ou du moins de la compléter. Les autres, ça n'annule pas ce que font les autres, ça j'espère du moins que ça complète, voire que ça invitera les historiens et les historiennes à ne pas oublier ces sources-là, qui sont des histoires infimes, ce qu'on appelle des vies minuscules. Mais on voit bien dans le travail sur la fatigue que Georges Vigard
a toujours fait.
Donc c'est ce que vous faites, vous. On se disait tout à l'heure dans l'éloge que nous avons tous les deux toujours travaillé sur ce qu'on appelle les en marche de l'histoire.
Mais alors, essayons de les ramener au centre, d'ailleurs.
Voilà. Ouais.
Mais alors, une question tout de même, c'est la seule chose qui m'a frappé, moi, en lisant le livre. Pourquoi commencez-vous cette histoire passionnante uniquement à la Révolution française ? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire féminine de la France qui nous permettrait, dès Charles Martel et la bataille de Poitiers, de comprendre ce qu'était la sensibilité féminine, mais ce qu'ont aussi été les modes de domination, voire le consentement, puisque vous en parlez parfois.
Mais c'est une évidence. Alors la réponse, elle est très simple. D'abord, je suis contemporanéiste, donc je ne me chargerai pas de ce travail-là. Nous espérons que après ce livre, on va aller en marche arrière pour voir effectivement les autres époques.
Mais cela dit, je pense quand même, moi je vous rejoins, je pense que la Révolution française, c'est quand même l'objet d'une rupture.
Absolument.
Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, tout ça sont des personnages très importants. Mmh. Et quand j'avais travaillé sur la robe, personnellement, ce qui m'avait frappé, c'était que précisément, quelques petites années avant la Révolution, mais surtout au moment de la Révolution, la tenue féminine change.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle tombe droit, elle ne gêne plus, on n'utilise plus le corset.
Ça, c'est les obsessions de Vigarello. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un changement, un changement, invention de la bicyclette, le corps change.
Mais c'est vrai.
Je vous laisse libre.
Non, mais vous avez raison. C'est ça qui est passionnant. Vous êtes le seul à le faire, ce travail.
Je vous laisse libre de dire quelque chose. Mais c'est vrai que c'est une rupture.
Mais oui, mais le rôle du vélo est fondamental pour la liberté.
Regardez les silhouettes. Non, mais c'est très simple. Regardez les silhouettes. Les silhouettes du 18e. Sont encore traditionnelles, 1760-70. C'est-à-dire qu'il y a un corset qui serre très fortement le buste, et puis le bas de la robe part à l'horizontale. Donc ça veut dire que les mouvements ne peuvent plus être des mouvements, ne peuvent pas être des mouvements naturels. Ça veut dire que la femme ne peut pas s'asseoir de façon simple. Qu'est-ce qui se passe à la Révolution française ? La robe tombe. Et ce qui reste un tout petit peu comme périodique de mode, si vous voulez, ils vous disent « enfin !» Enfin, votre corps peut arriver aux marges de l'habit et rendre votre pas souple. Or, et je vous rejoins, ce qui se passe après, c'est précisément la fin des espoirs féministes. Et là, c'est très clair ce que vous dites. Ça correspond à quoi ? La tenue va à nouveau changer. C'est-à-dire que le corset va revenir, la robe va repartir à l'horizontale, et à nouveau, je dirais, la disposition du corps va être embrigadée. Avec, ensuite, effectivement, un immense combat féministe qui va aboutir au début du XXe, parce que ça tombe à nouveau.
Alors, ce que je trouve passionnant, moi, dans votre livre, enfin, dans vos deux livres, parce que c'est le point commun, c'est qu'effectivement, vous nous faites toucher du doigt ce que des inventions peuvent avoir comme, j'allais dire, dommages collatéraux, puisqu'en réalité, c'est ça. Vous racontez, Yannick Ripa, que l'invention de la bicyclette, alors je vous cite, « Combien de mariages hors du terroir l'invention de la bicyclette a-t-elle permis ?» Page 263, un peu plus loin. « Combien de départs masculins, grâce au chemin de fer, ont provoqué des célibats féminins en milieu rural ?» C'est tout ça qui raconte l'évolution des comportements.
Bien sûr, parce que tant que l'horizon, c'est le bout de votre champ, vous vous mariez avec celui qui est à côté, et pas par choix. Vous avez peu même de possibilités de tomber amoureux, parce qu'être amoureux et amoureuse, c'est quand même une magie qui suppose que vous rencontriez quand même un certain nombre de gens. Donc ce mélange des êtres permet effectivement une différence dans les façons dont les familles se rencontrent, et puis naît la liberté. Et on voit sur le vélo, si on interdit aux femmes de porter des pantalons pour aller à vélo, c'est leur interdire une forme de liberté. C'est là effectivement où les choix du corps et des vêtements se rejoignent. Mais ce qui m'a aussi beaucoup frappée justement, c'est que les temps forts pour les hommes, l'industrialisation, ce n'est pas les mêmes temps forts pour les femmes. Mmh. Pour une femme, l'invention du biberon, c'est beaucoup plus important que l'invention du chemin de fer, si j'ose dire. La stérilisation, c'est quelque chose également de formidable pour ces femmes-là. Les progrès de la gynécologie aussi. Donc on voit bien qu'il n'y a pas le même vécu. Et de ce fait, elles portent un regard sur l'histoire, comme on dit, avec un grand H, qui n'est pas le même. Et donc, j'ai voulu voir le point de vue aussi des femmes sur la grande histoire. Et ça, on l'entend très, très rarement.
Peut-on dire, Yannick Ripa, que le 19e siècle est un siècle qui, volontairement, veut éteindre cette émancipation qui commence timidement à la Révolution française? Je dis timidement parce que les figures principales, elles sont quand même guillotinées.
La Révolution française, contrairement à ce qu'on croit, moi je trouve que c'est les plus grandes perdantes de la Révolution française, ce sont
les
femmes.
Oui, ça vous le montrez très bien. Oui.
Quand on pense que l'un des derniers décrets de la Révolution française, c'est quand même d'interdire aux femmes de se réunir à plus de 5 dans la rue. Imaginez si demain matin on faisait ça.
Et puis le décret maréchal,
ou les interdits sur le travail.
Ouais, tout est terrible en fait. Et le 19e siècle ne fait que institutionnaliser ce que la Révolution a mis en place. Et c'est ainsi qu'effectivement, s'interroger sur le fait de savoir s'il était misogyne. À chaque fois qu'il y a une révolution, les femmes y participent. Elles sont sur les barricades.
1830, 1848, 1830, il faut rappeler que c'est Delacroix quand même qui peint la liberté guidant le peuple.
Mais c'est une allégorie.
Oui.
Enfin, elles ne sont pas là. Regardez, c'est juste une allégorie. Elles ne sont pas là. Elles ne sont pas en train de mourir. Elles n'ont pas un revolver à la main. Elles ne vont rien obtenir.
Et pourtant, elles y étaient.
Et pourtant, elles y étaient.
1848, encore plus.
Voilà. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il y a un moment où les peintres les montent sur les barricades, et puis après, elles vont s'estomper. Et en 1848, alors qu'elles sont sur les barricades, alors que la Seconde République est déclarée et le suffrage est dit universel, qui est quand même pas n'importe quoi comme adjectif, un comité de femmes se rend auprès du gouvernement provisoire et elle dit, on est, en gros, elle ne s'exprime pas comme ça, mais c'est pour aller vite et faire comprendre. En gros, universel, on est dedans, bien évidemment. Et qu'est-ce que répond le délégué du gouvernement provisoire, qui s'appelle Marat, mais qui n'a rien à voir avec, évidemment, celui de la Révolution française? Il dit, ah ben non, le gouvernement est provisoire, il ne peut pas faire des lois qui n'existent pas encore, il peut juste en rétablir. Mais n'ayez crainte, mesdames, nous nous occuperons de votre bonheur. Les femmes ont tout de suite compris d'abord, leur bonheur n'a pas à dépendre des hommes, et que l'universel, comme le montrait Olympe de Gouges, et c'est en cela qu'elle est regardée comme première féministe. Je n'ai pas dit que c'était la première, j'ai dit qu'elle était regardée, ce qui n'est pas pareil. Elle a bien dit, Olympe de Gouges, mais qu'est-ce que c'est que cet universel? D'où la déclaration des droits de la femme. Et la première philosophe féministe, Maria de Rèbes, eh bien, elle dira que cet universel est un universel de poche.
Christophe Naudin.
Alors, les élèves sont très curieux.
Ils sont demandeurs d'une histoire qui replacerait aussi les femmes.
Oui, et notamment les élèves, les filles. Et elles sont très, y compris quand on parle de l'actualité, elles sont très virulentes. Et elles disent, monsieur, quand est-ce qu'on va parler de ces questions-là, y compris en cinquième, hein, des élèves jeunes. Et la difficulté, en fait, alors ça dépend des périodes, effectivement. Moi, je suis plutôt médiéviste. Je suis médiéviste. Donc, ce n'est pas facile de parler des femmes sans dire, voilà, maintenant, on va parler d'une femme parce qu'il faut parler des femmes. Ça, c'est une mauvaise approche. Mais moi, j'essaie de parler à la fois des femmes de pouvoir, évidemment, parce qu'on a beaucoup de sources, on connaît des choses. Ça va de Théodora, Blanche de Castille. Enfin, je peux parler de femmes vraiment différentes. Mais aussi, par exemple, de la place des femmes dans le travail des paysans au Moyen-Âge, ce genre de choses. L'aborder par ce biais-là. Pour la Révolution, les élèves ont assez vite compris effectivement qu'elles faisaient partie des grandes perdantes de la Révolution, les femmes.
Oui, puis vous employez le mot pouvoir, et ça, c'est un mot qui, pour l'histoire féminine, l'histoire des femmes, est un mot un peu traître. Parce qu'avoir du pouvoir et avoir le pouvoir, il y a quand même une différence essentielle. Donc, avoir de l'influence, et que dans les hautes sphères, ce n'est pas du tout la même chose qu'être au pouvoir, elles ne le sont pas.
Vous posez une très bonne question que j'ai envie de vous retourner, page 175. Comment interpréter l'adhésion des femmes au seul avenir qui leur est proposé, imposé, en l'occurrence au XIXe siècle, être bonne mère et bonne épouse, point barre.
Je pense qu'on peut comprendre, parce que c'est l'intégration des modèles, si depuis toujours on vous répète que vous n'êtes faite que pour ça, que vous ne pouvez pas faire autre chose. Et les philosophes le disent, les médecins le disent, vos parents le disent, l'éducation, peu de femmes ont accès à l'éducation. Le 19e siècle considère...
Ils verrouillent, hein, vous avez une métaphore formidable. Les habits sont prêts, tricotés,
ah oui,
et le 19e n'aura plus qu'à les enfiler et puis à serrer les coutures.
Voilà. Or, quand on dit à une femme qu'elle n'est pas capable de comprendre la philosophie, que c'est trop abstrait, que ce n'est pas pour elle, que de toute façon, les mathématiques, c'est trop abstrait, ce n'est pas pour elle. La peinture à l'huile, c'est une matière qui n'est pas pour les femmes. Le corps de la femme, c'est de l'eau. Lorsqu'elle est enceinte, il y a également son ventre est plein d'eau, donc elle peut aller faire de l'aquarelle. La femme, elle est faite pour la reproduction, donc éventuellement même à l'aquarelle à dessiner, mais elle n'est absolument pas faite pour créer. Le génie est masculin. Donc vous êtes enfermée, j'ai presque envie de dire. Hubertine Auclert, qui est la première suffragiste française, arrive un jour au congrès de Marseille, qui deviendra le grand congrès, l'immortable congrès socialiste. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je viens représenter 19 millions d'esclaves. Elle parle des femmes. Mais avant que les esclaves se révoltent, ils ne se sont pas révoltés. On leur a dit qu'ils étaient nés esclaves, que Dieu l'avait voulu. Là, le 19e siècle, qui est quand même de plus en plus laïque, il remplace Dieu par la nature.
Ouais. Vous montrez très bien que c'est l'éducation hein, qui est la clé oui. de tout. Ah, et qu'à partir du moment, à la fin du 19e siècle, les choses commencent doucement à changer.
Oui, et encore, on ne peut pas y échapper. Il y a quand même toujours des réserves incroyables. Quelqu'un comme Marie Curie, pendant la guerre de 14, elle est obligée de se bagarrer pour faire admettre aux militaires que les rayons vont permettre de voir la radiographie, va permettre de voir où est-ce que les soldats sont atteints, et notamment par les gaz. Et elle va mettre du temps à créer ce que les soldats ont surnommé les petites Curies, qui sont ces petites ambulances qui montent au front. Et c'est Marie Curie, donc vous imaginez les autres.
André Comte-Sponville, j'aimerais savoir quel regard le philosophe que vous êtes porte justement sur cette histoire féminine de la France qui rebat considérablement les cartes. Elle est liée, cette histoire, aussi aux nouvelles technologies qui s'inventent, aux nouvelles façons de vivre, à des révolutions plus profondes comme la révolution démographique.
Moi, je suis un féministe différentialiste, comme on dirait dans les débats féministes. Je
vous n'essentialisez pas.
Entre les hommes et les femmes, avec toutes les différences individuelles qu'il y a, toutes les femmes sont différentes, tous les hommes aussi, mais je pense que la différence sexuelle existe bien. Et ce que montre bien votre livre, d'ailleurs, c'est que la différence des genres... Alors, expliquons aux téléspectateurs, ce qu'on appelle le genre, c'est le masculin et le féminin en tant que construction sociale, idéologique, résultant de l'éducation, etc. Et il arrive parfois qu'à force de parler des genres comme construction sociale, certains ou certaines fassent comme si les différences sexuelles, du coup, étaient abolies. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, au contraire, c'est une espèce d'équilibre, puisque vous dites en substance, à force de parler des genres, on risquait de faire disparaître les femmes. C'est un peu l'expression
que vous... Oui, j'avais peur. Je ne suis pas du tout anti-genre, si je veux dire. Hein. Oui. C'est pas ça, non, mais pour préciser. Simplement, mais c'est vrai qu'à force de travailler sur le féminin, la construction du féminin, la construction du masculin, l'articulation entre les deux, ce qui est fondamental, j'avais peur qu'on en revienne à invisibiliser les femmes, à oublier les êtres de chair, leur vécu, ou plus près, ce que j'ai essayé de retrouver. Et d'ailleurs, je pense qu'il peut à ce niveau-là y avoir en quelque sorte aussi... on voit bien que l'histoire des femmes aboutit à faire une histoire de la virilité et que y a les deux pans de l'histoire se répondent. Mais j'avais peur effectivement que le genre devienne trop sur la construction et qu'on n'arrive plus à voir comment les femmes recevaient cette imposition. Et effectivement, est-ce que correspondre au modèle, c'est-à-dire réussir sa vie de femme. Est-ce que dans le fond, c'est ça le bonheur des femmes? Et il y en a un certain nombre de femmes qui disent « Mais quelle horreur, c'est pas ça que je veux !»
Question posée d'ailleurs par le livre, réussir sa vie, point d'interrogation.
Voilà.
Mais ce que je voulais ajouter, c'est que ce qu'il y a de formidable dans ce livre, c'est que c'est une leçon de progressisme, pour le coup. Parce que s'il y a un domaine où l'histoire a progressé spectaculairement, c'est bien notamment dans la place des femmes et dans la libération des femmes. Et c'est très réconfortant de ce point de vue, de voir malgré tout... Le progrès est inachevé, il est incomplet, il est contradictoire, mais il est tellement énorme, tellement considérable. Et puis, pour d'excellentes raisons... Ce que vous évoquiez tout à l'heure, on interroge les hommes sur l'événement le plus important du XXe siècle, on a marché sur la Lune. Conséquences concrètes, nulles. Les femmes répondent, la contraception. Conséquences concrètes, mais innombrables, décisives. Ça a changé complètement le monde, vous voyez. Et je crois que c'est très important de sortir de cette espèce de symbolisation un peu bête, y compris phallique, de la fusée qui va sur la Lune, pour entrer dans le réel, dans le concret de la vie. Et donc voilà un livre qui, en étant parfaitement historique, là c'est pas un témoignage, c'est de l'histoire avec tout l'appareil scientifique qui donne des raisons d'être progressiste et même optimiste, on aurait quand même tort de s'en priver.
Voilà. Je serais peut-être moins optimiste que vous.
Ah bon, vraiment?
Oui, parce que oui, le fond de verre continue.
Parce que quand on regarde, vous savez, au moment du MLF, dans la rue, était chanté un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté. Et cette histoire, elle montre aussi qu'à chaque révolution, qu'elle soit politique, économique, les femmes s'engouffrent, ou du moins des femmes. Des femmes s'engouffrent, et puis qu'en face d'elle, il y a immédiatement une réaction extrêmement anti-féministe. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Pologne pour empêcher l'avortement, il y a toujours un moment où La marche des femmes est arrêtée. Il y a une crise économique. Les premières débauchées, ce sont les femmes. On n'a toujours pas eu de femmes au sommet du pouvoir, y compris en France. Aux États-Unis non plus. Donc, on voit bien qu'il y a... il faut avoir une attention permanente du côté des femmes, à ne pas croire que ce qui est acquis est acquis. Ce que disait d'ailleurs, juste avant sa mort, Gisèle Halimi.
Ce qui est important, c'est que ce n'est précisément pas une histoire linéaire. On le voit bien, je reviens à la question de la Révolution française, espoir important, et puis ensuite, espoir déçu. Et finalement, votre histoire, elle montre quand même qu'il y a une avancée, mais avec des hésitations, des reculs, des retours en arrière. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est les visions de l'histoire qui n'est pas simpliste, si vous voulez, qui n'est pas univoque. Vous voyez.
Mais même en mai 68, les filles de mai 68 qui ont témoigné, elles insistent toutes sur la déception de mai 68. Regardez mai 68, vous voyez une femme, vous, devant ? Non, il n'y a que des hommes.
Ah bah, il y a quand même le célèbre, vous savez, cette photo célèbre.
Oui, mais c'est quoi, c'est une jeune fille
assise sur les épaules de son compagnon qui brandit le drapeau.
Elle n'a pas de pouvoir. Il y a une jeune femme qui dit qu'elle n'est pas... Je la cite parce qu'elle n'est pas la seule. Sinon, on sait bien que pour l'historien, un témoignage n'a pas grande valeur. Ouais. Elle dit, oui, mon homme est un grand homme, il fait la révolution. Moi, je fais les sandwichs.
Histoire féminine de la France. Yannick Ripast aux éditions Belin. Un mot pour vous parler de notre grand concours de lecture à voix haute. Il continue ce concours. Si on lisait à voix haute dans les classes, les professeurs travaillent désormais avec les candidats. Je vous rappelle que ce sont des jeunes de la 6e à la terminale. Et alors, pour vous aider à mieux lire encore à voix haute, eh bien nous avons demandé ce soir à 4 comédiens de nous donner leurs meilleurs conseils. Voici Alexandra Lamy, Catherine Fraud, Stéphane Varupen de la Comédie Française et Gilles Cohen.
C'est surtout trouver sa bonne respiration. C'est-à-dire de ne pas aller jusqu'au bout de la phrase sans respirer, parce que ça se sent et que du coup on est extrêmement tendu. Et puis essayer de respecter, finalement j'allais dire un peu, toutes les virgules et les points pour justement pouvoir reprendre son souffle. Voilà.
Bah déjà c'est s'entraîner chez soi. Moi souvent je lis à voix haute. Si on a des fois des textes à lire à voix haute, il arrive, de, comme pour une partition musicale, quoi, de mettre des annotations, les césures, les moments où vraiment on doit faire... On s'arrête un petit peu, les temps de respiration, et puis surtout pour être bien dans le sens. Quoi, pour, voilà, en gros, le petit conseil que je pourrais donner.
Il faut penser à celui qui écoute. Chaque mot, chaque son... à son importance. À partir du moment où celui qui lit donne à entendre, il se fait comprendre.
Ce qui est très très important, c'est la résonance, c'est la caisse de résonance. Souvent on lit sans prendre conscience de l'espace et de la personne à qui on s'adresse et des gens à qui on parle. Donc en fait, il faut toujours qu'il y ait une résonance quand on parle. Un renvoi de notre parole qui nous est renvoyé par des corps ou par des yeux ou par un regard ou par des sentiments. Mais c'est l'écho, en fait. C'est l'écho de notre voix qu'on doit entendre. C'est le silence.
Voilà. Voilà, toujours en compagnie d'André Comte-Sponville, Yannick Ripast, Christophe Naudin et Georges Vigarello. J'ai gardé la fatigue pour la fin de l'émission. Alors, ce n'est pas du tout qu'on est fatigué, au contraire. Hein, ça pourrait se prolonger jusqu'au bout de la nuit. D'ailleurs, la fatigue, montrez-vous, entre autres, c'est un défi. Ça se surmonte.
Bien sûr, bien sûr.
C'est l'hiver. Le confinement est encore dans tous les esprits. Vous la sentez, vous, cette fatigue qui nous saisit tous, parfois ? Eh bien voilà, la fatigue a une histoire. Et lire l'histoire de la fatigue que propose Georges Vigarello, bah, croyez-moi, c'est un excellent moyen de sortir de la fatigue, paradoxalement. Qu'est-ce qui vous a poussé, Georges Vigarello, à raconter l'histoire de la fatigue, vous qui avez déjà écrit ? Alors, une histoire de la virilité, vous en parliez tout à l'heure, Yannick Ripast, une histoire de la beauté, l'histoire du sport, si ma mémoire est bonne, l'histoire du mieux-être et des pratiques de santé, oui. De la robe, vous en parliez aussi, de la silhouette. Bref, vous êtes quand même un historien atypique, vous. Hein, et vous racontez ça comme des sagas, comme si c'était des romans.
Raconter, écoutez, franchement, quand vous dites raconter, je trouve que ça traduit assez bien ce que j'ai tenté de faire. Mais je suis parti quand même, et je reprends aussi ce que vous venez de dire, je suis quand même parti d'un sentiment assez présent aujourd'hui. qui porte sur le fait qu'on a tendance à se trouver plus ou moins fatigué, épuisé, etc. Quand je lis Christophe Naudin, je vois une présence très forte de la fatigue. Même le trauma, ça renvoie à quelque chose qui est dans la fatigue. Et je trouve qu'on en parle beaucoup. Alors, la question que je me suis posée, c'est pourquoi en parle-t-on beaucoup ? Donc, je ne voudrais pas commencer par la fin, mais pourquoi en parle-t-on beaucoup ? À mon avis, on en parle beaucoup parce que ça renvoie tout un ensemble de choses qui ont été dites ici même tout à l'heure, et en particulier sur le problème du féminisme, parce que les individus, vis-à-vis d'eux-mêmes, sont plus présents qu'auparavant. Ils s'interrogent beaucoup plus sur ce qu'ils vivent et sur ce qu'ils ressentent.
Ça, c'est, même si ça, c'est une nouveauté. A inauguré quelque chose. Pour vous, c'est une nouveauté dans l'histoire.
C'est très fort. J'avais déjà croisé ce type de repère quand je travaillais sur l'histoire. J'avais tenté de faire une histoire de la perception du corps. Et on voit très bien qu'il y a effectivement une histoire de la perception du corps. Et que cette perception, elle devient de plus en plus présente, de plus en plus aiguë, aidée sans doute par des découvertes médicales, aidée sans doute par des discours divers et médicaux, psychologiques. Mais c'est beaucoup plus présent. Du coup, la fatigue est un moment que vous avez tendance à interroger davantage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à partir de là ? Je me suis retourné vers le passé et je me suis dit, bon, comment, dans les périodes très éloignées, les choses pouvaient se dérouler ? Et là, je pense qu'il faut faire deux remarques. La première, c'est que moi, j'ai tendance toujours à faire cela. C'est une position vis-à-vis de l'histoire qui peut se discuter, mais à l'égard de laquelle je suis assez déterminé. La première, c'est de remonter loin dans le temps pour essayer de voir comment les choses se sont déroulées. La deuxième, c'est de se poser la question qu'est-ce que la fatigue ? Et à ce moment-là, on constate très vite que dans le temps, il y a plusieurs types de fatigue.
Mais est-ce qu'il y a, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out ou le stress ?
Non, pas le burn-out, mais vous voyez très bien...
Est-ce qu'il y a la lassitude ?
Vous commencez... Alors, d'abord, on commence à avoir des termes qui nuancent. Par exemple, je ne sais pas, la langueur au 17e. Bon. Et puis, donc, ça donne des indications sur des seuils d'intensité. Et puis, vous avez des types de fatigue différents. Par exemple, Descartes, que connaît très bien Comte Sponville, est un des premiers à parler très intelligemment d'une fatigue d'esprit. En disant, ne faites pas trop de métaphysique, ne faites pas trop de calculs mathématiques, sachez vous reposer. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. À partir du moment, je continue parce que ça me paraît très important, à partir du moment où vous décernez, vous distinguez des fatigues différentes, vous faites rentrer quelque chose que vous n'attendiez pas, et qui est tout simplement le social, l'économie, les raisons pour lesquelles ces fatigues changent.
Pour aller remonter très très loin dans le temps, comme vous dites, vous allez, vous remontez pas si loin que ça, vous remontez au Moyen-Âge.
Bien sûr.
Mais on y retrouve une fatigue.
Mais vous savez, pour les historiens, c'est déjà aller très loin.
Très loin. Ouais,
ouais. Bon. Est-ce qu'on peut dire que la fatigue est valorisée au Moyen-Âge ? Parce que vous insistez sur une fatigue, et celle des combattants.
Alors voilà une autre question qui me paraît fondamentale, c'est qu'à la fois, vous pouvez travailler sur la description de la fatigue. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça évolue ? Qu'est-ce qui devient important ? Et puis aussi, vous pouvez vous poser la question qui est la suivante. Mais quels sont les gens que l'on évoque quand on parle de la fatigue ? Qui décrit-on ? Une fois qu'on a posé cette question, comment les décrit-on ? Les valorise-t-on ou pas ? Et qu'est-ce que vous voyez si vous posez cette question au Moyen-Âge ? Valorisation considérable du combattant. Parce que le combattant, c'est en même temps celui qui défend, mais c'est celui aussi qui peut diriger. Vous voyez, le militaire, c'est celui aussi qui peut devenir quelqu'un aboutissant à des responsabilités très fortes dans la direction de l'État. Donc du coup, la fatigue du combattant devient être valorisée. Et qu'est-ce qui émerge ? Quels sont les personnages importants selon les périodes ? Et ce n'est pas la même chose au XVIIe, par exemple. Ce n'est pas la même chose au XVIIIe et encore moins aujourd'hui.
Mais ça veut dire qu'au Moyen-Âge, on ne parle pas du tout de la fatigue du travailleur,
alors,
du
c'est
serf.
Compliqué. Alors, c'est très compliqué. Votre question est, à mon avis, importante. On parle d'abord de trois types de fatigue au Moyen-Âge. La fatigue du combattant, la fatigue du clerc. Le clerc, c'est celui qui, en quelque sorte, se fatigue pour les autres. Celui qui ne dort pas. Celui qui essaie de consacrer sa propre activité au bénéfice d'une étendue publique extrêmement large. Et puis, troisièmement, c'est le voyageur. Alors, le voyageur, c'est important parce qu'il y a plusieurs types de voyageurs. Vous avez le marchand. Vous avez aussi quand même le noble qui peut voyager pour transporter des modes d'autorité d'un lieu à l'autre, pour demander des conseils ou pour manifester sa propre autorité sur des régions. Donc ça, au moins le marchand, le noble. Et troisièmement, le pèlerin, pour des raisons religieuses également, qui voyage. Alors apparemment, le travailleur n'est pas là.
Les femmes non plus.
Et en fait, et les femmes très peu. Non, très peu quand même.
Oui, mais...
Voilà. Mais vous avez raison.
Aussi parce qu'elles ne sont pas combattantes.
Raison. Bien entendu, bien entendu.
En revanche, elles sont présentes dans
votre
travailleur.
Livre,
hein, les femmes, et notamment à partir du siècle des Lumières.
Oui.
Alors, pour avancer un petit peu, Georges Vigarello, il y a une chose que je trouve étonnante. C'est, vous racontez comment, au siècle des Lumières, avec les philosophes notamment, apparaît une notion que nous n'avions pas, qui est la compassion pour celui qui est fatigué.
Oui. Il y a une accentuation très forte de la sensibilité. On le voit chez qui ? Rousseau, le rapport à l'enfant. On peut discuter le rapport à l'enfant. Mais quand même, bon, le rapport à, à l'esclavage. Des gens comme Rénal, l'abbé Rénal, qui trouve scandaleux l'esclavage au XVIIIe, la discussion des corvées, etc. Donc il y a une compassion. Et cette compassion porte sur le fait qu'on regarde le travailleur autrement. Les textes de Mercier, les textes de bien d'autres, Adam Smith aussi, sont des textes qui vous disent « Mais enfin, ces gens-là souffrent. Ils sont pliés, ils sont écrasés. » Ça, c'est neuf. Et c'est très intéressant, parce que ça renvoie à une nouvelle façon de vivre le milieu et de faire exister la culture, vous voyez ?
Alors vous écrivez également que la fatigue peut être vécue de manière extrêmement positive pour certains, notamment les explorateurs, et là, la fatigue devient un défi,
oui, alors
un défi qu'on veut
pour tout
s'imposer.
Vous dire, pour tout vous dire, là encore, vous voyez, c'est comment on la vit. Bon, pour tout vous dire, ce qui est très intéressant, effectivement, c'est que dans la montée de l'individu, dans la montée du sujet, le sujet va se poser des défis. Enfin, en particulier le bourgeois de la deuxième moitié du XVIIIe. Qu'est-ce qu'il propose comme défi ? Ben, le voyage. Mais ce n'est plus le voyage qui fait souffrir, c'est le voyage qui grandit. Mmh. Mais pas seulement le voyage, les montagnes. Les montagnes deviennent des lieux qui peuvent être explorés, qui peuvent être mesurés, qui deviennent des lieux de plaisir. La fatigue devient un lieu d'épanouissement. Vous voyez, chez Saussure, par exemple, qui monte le Mont Blanc, qui dit « Jamais j'ai vu un spectacle aussi merveilleux. Je suis, en quelque sorte, réconforté de la fatigue que j'ai éprouvée. »
À partir de quand apparaît la fatigue mentale ?
Alors, c'est assez compliqué parce que je l'évoquais tout à l'heure, le problème de la fatigue d'esprit chez Descartes. Et ça, c'est indiscutable et c'est très important. C'est-à-dire que ça renvoie aussi à des données psychologiques. Vous voyez, par exemple, vous commencez à voir dans les textes, y compris chez Saint-Simon, des textes qui sont « Le roi était fatigué d'eux », d'entendre telle chose. Donc c'est psychologique, ça. Ce n'était pas utilisé auparavant. Donc il y a un approfondissement. C'est ce qui est très important.
Mais ça, c'est chez le roi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est chez le peuple. Et vous consacrez un chapitre formidable au XIXe siècle qui me fait penser au chapitre que vous consacrez, Yannick Ripa, à l'aliénisme au XIXe siècle. C'est-à-dire ce moment où les aliénistes vont avoir gain de cause et on va enfermer, et notamment enfermer les femmes. Ça, vous le racontez très bien. Est-ce qu'il y a un moment comme ça, qui est un moment clé
Oui. Il y a un moment
qui change.
À mon avis, c'est la deuxième moitié du XIXe. Où la souffrance mentale, l'exigence mentale, la difficulté, le fait d'éprouver de la difficulté deviennent plus importantes. Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième moitié du XIXe ? Ça, je suis très sensible à ce genre de problème. C'est que le monde, indiscutablement, s'est accéléré. À savoir les communications, la bicyclette est un exemple, mais ce n'est pas le seul, la vapeur, les télégraphes, les circuits sous-marins pour communiquer entre l'Europe et les États-Unis, ça s'est accéléré. Et les individus commencent, alors les individus au sens plus large du terme, ce n'est pas seulement les bourgeois, commencent à avoir le sentiment qu'ils sont dépassés, qu'ils n'arrivent plus à suivre. Et ça, c'est de la fatigue mentale. Ça va s'appeler le surmenage. Vous voyez ? Donc quelque chose de neuf qui est très important. Et là encore, vous travaillez sur la fatigue, et qu'est-ce que vous tirez ? Vous tirez une façon de vivre, vous tirez une façon de voir le milieu, de voir le temps.
Oui, moi je me demande, mais si la fatigue mentale, pour le coup, alors on va me dire que je suis obsédée, n'est pas aussi genrée, parce que vous faisiez allusion à l'aliénisme, et les aliénistes, eux, font une différence entre la capacité intellectuelle des hommes à supporter justement la métaphysique, la philosophie, l'abstraction, et que le cerveau des femmes se fatiguerait, c'est le mot qu'ils emploient, et dans les registres d'internement d'hôpitaux, dans les hôpitaux psychiatriques, qu'on appelle à l'époque les hôpitaux spéciaux, il y a marqué pour
vous
les femmes
absolument raison,
fatigue mentale.
Totalement d'accord avec vous. Je cite un exemple très simple, qui est le problème des concours.
Oui.
Alors, les concours apparaissent, d'abord, ils sont parfaitement légitimes, parce que c'est un côté démocratique qui n'était pas connu sous l'Ancien Régime. Donc, tout à fait neuf. Mais ils sont difficiles. Il y a des échecs. Il y a de plus en plus de candidats et de moins en moins de réussites. Donc, qu'est-ce que ça entraîne ? Surmenage. Mais quelles sont les vraies victimes ? L'école normale des filles. Attention, c'est là qu'il y a le plus de victimes.
Ah oui.
Et donc, quelles sont les personnes qui vont se retrouver à un hôpital psychiatrique, comparant les hommes et les femmes, dans tel secteur, 140 femmes dans l'hôpital psychiatrique, 20 hommes. Oui. Donc là, vous avez totalement raison. Elles sont considérées comme plus... Si vous voulez, à chaque période, elles témoignent d'une faiblesse. Et la faiblesse de la deuxième moitié du 19e, c'est la faiblesse nerveuse. Elles ne résistent pas, elles ont les nerfs qui sont mous.
Voilà, et c'est une des raisons pour lesquelles...
Vous avez raison.
Dans les procès des communardes, on considère que les communardes, elles sont allées d'abord faire la révolution de la commune, parce qu'elles ont suivi les hommes, qu'elles n'ont pas d'idées, ou éventuellement qu'elles ont bis, qui leur sera très utile pour ne pas être condamnées. Mais parallèlement à ça, les textes disent bien que les femmes sont prises d'hystérie, qu'elles ressemblent à des sorcières, et qu'elles n'ont pas supporté déjà le siège des Prussiens, et qu'elles sont victimes de cette folie du siège, et qu'ensuite, elles ont le cerveau qui ont littéralement explosé de fatigue mentale.
Bien sûr.
Parce qu'elles ne sont pas capables de concevoir le politique
et
la politique.
J'ajoute une chose que nous avons complètement oublié aujourd'hui, mais qui a été très importante à la fin du 19e, c'est la question de l'école. Dans la mesure où l'école devient obligatoire, les individus ont le sentiment que ce qu'on va demander aux enfants devient absolument infini et devient difficile à maîtriser. C'est aussi une des raisons du surmenage. Nous, le surmenage scolaire devient une vraie question dans les années 80 du 19e, aussi bien d'ailleurs en Angleterre, en France, en Allemagne, etc. Et là encore, différence filles-garçons. Les filles sont plus victimes de ce problème que ne le sont les garçons.
Quand on écoute André Comte-Sponville, Georges Vigarello, on a l'impression qu'il ne faudrait plus dire, comme Bergson, que le rire est le propre de l'homme, mais que la fatigue est le propre de l'homme.
Non, moi, je crois que la fatigue est le propre du vivant. Vivre, oui, fatigue, en tout cas des animaux, bien sûr. Vivre, c'est un effort. C'est ce que disait Spinoza, l'effort de tout être pour persévérer dans son être. Bah, tout effort fatigue, évidemment. Et donc, la fatigue est le propre des animaux. Mais en vous écoutant, je me disais, tout ce que vous dites est évidemment vrai. Mais aujourd'hui, les filles font de bien meilleures études que les garçons.
C'est vrai. Vous confirmez, Christophe Naudin ?
Retomber dans un optimisme unilatéral, mais c'est quand même la
première... Nous nous regardons en tant qu'enfants.
C'est quand même première fois que statistiquement, dans la quasi-totalité des disciplines, les filles font de meilleures études que les garçons.
Oui, mais Yannick aura la réponse.
Il faut se désoler pour les garçons éventuellement, mais c'est quand même... On ne peut pas ne pas voir ce fait comme étant positif.
Vous avez tout à fait raison, mais lorsque vous passez au supérieur... Les choses changent.
C'est ça la différence.
À Polytechnique.
Polytechnique, c'est un bel exemple.
Voilà.
Oui, mais avant Polytechnique.
Oui, les filles ont globalement, notamment dans le secondaire, de meilleurs résultats.
Voilà.
Mais c'est après qu'il y a.
Mais c'est après. Voilà. Mais
parce qu'elles sont, en général, on les dit, j'ai bien dit, on les dit, plus soumises, plus propres, plus appliquées, plus j'apprends bien les leçons. Et puis, on s'aperçoit que les résultats au bac, effectivement, sont meilleurs. Merci Julie-Victoire Daubier qui a passé le bac à 40 ans pour montrer que les femmes pouvaient passer le bac en 1864, quand même. Et ensuite, elles s'auto-censurent. C'est-à-dire qu'elles vont dire, à Polytechnique, je ne vais pas prendre la filière la plus difficile parce qu'elles ont intégré, un, qu'on leur a dit que c'est vraiment difficile pour une femme, deux, qu'il y a ce fameux plafond de verre où le recrutement va se faire davantage vers les hommes. Elles ont intégré qu'il faudrait faire attention plus tard aux enfants, avec ce mot terrible, concilier la vie privée et la vie professionnelle.
Alors, il y a plein de choses passionnantes dans votre livre, parce que vous montrez comment on va d'invention en invention. On invente, par exemple, l'ergonomie, ce qui prouve bien qu'il y a un problème de pénibilité au travail. Vous montrez également, et ça c'est un chapitre, je ne vais pas vous lancer là-dessus, parce que là, pour le coup, on pourrait faire jusqu'au petit matin, l'invention et la recherche des dopants, depuis toujours, puisqu'il y a fatigue. On cherche évidemment à éviter la fatigue à travers les produits plus ou moins dopants. Je trouve votre dernière partie remarquable sur la question de l'identité. Comment arrive-t-on, Georges Vigarello, à dire que la frustration intime, que l'insatisfaction est une fatigue ?
Alors, je pense qu'il faut à nouveau partir relativement loin dans le temps. Il y a un premier mode d'affirmation personnelle que je trouve, moi, très marquant, qui est celui de la deuxième moitié du 18e, avec des auteurs comme Voltaire, des auteurs comme Diderot, des auteurs comme Rousseau qui s'interrogent sur eux-mêmes, etc., qui donnent de la dimension à leurs propres émotions, leurs propres sensibilités, etc., l'homme sensible, si vous voulez. Bon. Et je trouve que si on tire ce fil, on traverse le 19e, en fait, en accroissant. Le 19e, il devient de plus en plus psychologique. Ce n'est pas par hasard qu'une psychologie s'invente vraiment à la fin du 19e. Ça, c'est quoi ? C'est je suis autonome, à tort ou à raison. Je suis autonome, je dépends de moi, je ne dépends de personne d'autre. On affirme notre propre autonomie. On le voit d'ailleurs, tout simplement, c'est aussi simple que ça, hein, dans la façon dont on monte la publicité. Parce que je le vaux bien. C'est extraordinaire parce que je le vaux bien. C'est-à-dire que finalement, ma simple existence vaut la possibilité d'acheter quoi que ce soit. Parce que je le vaux bien. Vous voyez, ça paraît dérisoire et c'est central. Or, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, nous sommes dans un monde où la contrainte est totalement inévitable. Et quelle est la contrainte de plus en plus insupportable? C'est la contrainte de l'autre. C'est l'autre qui vient nous dire « non, c'est pas comme ça, il faut faire autrement, etc. » Ça, c'est de plus en plus insupportable. Et c'est ça qui est facteur de fatigue, à mon avis, aujourd'hui. Vous voyez, la domination. On le voit très, très bien avec la montée de certains termes qui méritent, à mon avis, d'être approfondis, le harcèlement. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement? C'est ne pas supporter que quelqu'un vienne en permanence nous contraindre, nous... Vous voyez, et ça, c'est une invention récente. Je dirais que ça apparaît dans le pénal uniquement dans les années 2000. Mais c'est fondamental, parce que c'est la façon dont ma propre autonomie vient à être percutée par la présence de l'autre.
Histoire de la fatigue, du Moyen-Âge à nos jours, sous la signature de Georges Vigarello. Le livre est publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Alors, pas de grande librairie la semaine prochaine. C'est pas qu'on est fatigué, hein, je vous rassure. Ni la suivante. Nous nous retrouvons le 6 janvier. Je vous souhaite donc de très belles fêtes, fêtes pendant lesquelles vous pouvez bien évidemment revoir cette émission et les autres sur le site France.tv. Écoutez les grandes librairies en balado-diffusion sur toutes les plateformes de streaming. Pas de grande librairie, mais tous les jours et sur toutes les antennes de France Télévisions, une petite librairie. Et bien sûr, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez par exemple gagner tous les livres dont nous avons parlé ce soir en répondant à la question qui vous sera posée dans un instant. Je vous souhaite de très belles fêtes et surtout de très belles lectures. À bientôt. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.